Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Il n'y a aucun doute qu'il y a eu une véritable onde de choc révolutionnaire en 2011 dans l'ensemble de l'espace arabophone. Ce fut véritablement un printemps, oui, mais c'est un printemps qui a été suivi, comme dans tout processus révolutionnaire de longue durée, et c'est de ça qu'il s'agit, qui a été suivi d'un hiver, hein, d'une période, d'une phase contre-révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons encore.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, intitulée « Dernières nouvelles du front, du Rojava et de Syrie ». Et pour parler de ces dernières nouvelles du front de Rojava et de Syrie, nous sommes avec Vivian Petit, co-auteur sur ce sujet de plusieurs articles, et avec qui nous avons déjà réalisé plusieurs émissions sur ce sujet. Donc bonjour Vivian.
Bonjour, merci de me réinviter pour cette émission sur l'actualité du coup de la Syrie. Il y a différents articles, différentes recherches qui sont sorties, du coup on a décidé de pouvoir en reparler, refaire un point notamment sur l'actualité.
Pour ce qui est des derniers travaux de recherche, donc je vais m'appuyer sur le livre qui vient de sortir de Joseph Daher aux éditions Plutôt Presse qui s'appelle « Syria After the Uprisings ». The Political Economy of State Resilience, disons, qui apporte à ce qu'on a déjà dit un focus un peu plus important sur les intérêts des puissances régionales, notamment comment est-ce qu'elles ont manipulé l'armée syrienne libre et qu'elles ont finalement nui à l'insurrection syrienne populaire de 2011. Et puis, c'est aussi un ouvrage intéressant par rapport à l'économie politique du régime. Comment est-ce qu'à partir de 2011, il a tenté de mobiliser sa base populaire, quelle base sociale il défendait, quelles concessions il a dû faire tout au long du conflit à différentes forces qui l'ont aidé, à la fois des forces internes et puis aussi, évidemment, à l'Iran et à la Russie. Et puis, je vais également m'appuyer sur les travaux très récents de Patrick Haini et Arthur Kenney, qui reviennent tout juste du Rojava. Donc, je m'appuierai sur eux pour un bilan de l'offensive turque. Et puis, je m'appuierai également sur les travaux de Sina Hataet sur l'économie politique du PYD. Donc, qui sont des travaux qui sont assez difficilement accessibles et qui offrent une perspective nouvelle un petit peu sur le PYD et sa gestion interne et les transformations sociales, économiques et politiques qu'on dit qui se sont passées là-bas. Et puis, toi, Vivian, du coup, tu vas plutôt parler de différents rapports, de différentes actualités très récentes en Syrie.
Oui, oui, oui. À la fois dans les zones reprises par la Turquie récemment, notamment sur les violations des droits humains, etc. Aussi les quelques sondages qu'il y a eu auprès de la population dans ces zones-là, dans les gouvernorats de Raqqa et d'Asakeh notamment. Et enfin, j'aimerais bien évidemment continuer à parler de la répression menée par le régime dans les zones qui ont été reconquises ces dernières années.
Voilà, alors du coup, pour commencer, je vais commencer avec plutôt les apports donc du livre de Joseph Daher. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est que Joseph Daher montre assez bien que le régime, depuis 2011 et avant, avait un certain nombre de principes organisateurs et aussi de stratégies qui vont lui permettre de résister à la vague révolutionnaire de 2011-2012, puisque en 2012, il y a quand même une grande partie du territoire syrien qui est perdue par le régime, au profit de l'insurrection armée, qui à cette époque est principalement démocratique, laïque, multiconfessionnelle, etc., etc., et pas encore tout à fait militarisée, même si ça commence du fait de la répression du régime. Et puis, comment est-ce que ce régime va même finir va se retrouver de plus en plus en capacité de reprendre du terrain, jusqu'à aujourd'hui où quasiment la totalité de la Syrie en dehors de Idlib et de sa région et du Rojava d'autre part, il a repris l'essentiel du territoire syrien à l'heure actuelle. Alors ce que dit Joseph Daher sur le sujet, c'est que tout d'abord, le régime, même s'il a énormément joué sur la confessionnalisation du conflit, a réussi quand même à faire en sorte que, tout en dépeignant l'opposition comme étant simplement un mouvement djihadiste, sunnite, etc., etc., et donc à se rallier les minorités qui avaient peur donc d'un scénario à l'irakienne, avec la montée plutôt d'Al-Qaïda à partir de l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Donc, d'une part, évidemment, Assad a réussi à s'attirer les faveurs des minorités, notamment en leur faisant un certain nombre de concessions, en réprimant moins les manifestations dans les zones habitées exclusivement par des minorités. Mais aussi, le régime a quand même réussi à faire en sorte qu'une partie de la population sunnite ne se soulève pas. Et pour ça, il a joué sur un double standard, c'est-à-dire que dans les zones relativement mixtes où il y avait un soulèvement, il a réprimé extrêmement brutalement les manifestations à majorité sunnite pour que les minorités comprennent que leur intérêt est de rester du côté du régime. Et par contre, il y a des zones exclusivement sunnites qui ne se sont pas soulevées. Et là, le régime ne les a pas réprimés, donc ça a permis au régime d'éviter non plus de tomber dans un conflit complètement confessionnalisé. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'à la fois le régime est très confessionnalisé dans le sens où il est avant tout le défenseur des minorités et la garde prétorienne, l'entourage de Bachar Assad, etc., est en écrasante majorité alaouite, mais en même temps, il a réussi à passer aux yeux au moins d'une partie de la bourgeoisie sunnite et de certaines zones aussi rurales acquises aux parties basses de longue date, il a réussi à se faire passer aux yeux de ces populations, enfin de ces groupes sociaux-là, pas comme un défenseur uniquement des alaouites, mais plutôt comme un défenseur du statu quo. Et c'est ce qui lui a permis de garder quand même certains soutiens dans la bourgeoisie sunnite, dans la classe moyenne sunnite, notamment, c'est très visible par exemple à Alep et à Damas. À Alep, une partie de la ville est restée loyale au régime tout au long du soulèvement, même si elle n'était pas peuplée, loin de là, que de minorités. Et même certaines zones rurales ne se sont pas soulevées contre le régime. Après, le deuxième aspect que met en avant Daher, c'est le fait que le régime est quand même assez affaibli en 2011 dans ses capacités de mobilisation. C'est-à-dire que le parti basse n'est plus qu'une coquille vide, incapable d'une quelconque mobilisation de la population depuis longtemps et encore plus sous Assad. L'armée est en complète décrépitude. Mais pourtant, le régime va réussir d'une part à limiter les défections d'officiers et de soldats par tout un jeu de surveillance, etc., etc. Et aussi un jeu très intelligent, c'est que globalement, jusqu'à une période relativement récente, le gros de la répression a été effectué par un nombre assez limité d'unités qui sont majoritairement composées d'alaouites. Parce que le régime a préféré que les troupes à majorité sunnite restent à s'occuper du maintien de l'ordre, mais pas à s'occuper directement de la répression, de peur que ces troupes basculent massivement dans l'opposition. Et globalement, effectivement, le régime a réussi par là à limiter l'hémorragie de soldats et d'officiers passés du côté de l'opposition. D'ailleurs, il n'y a jamais eu, par exemple, d'unité militaire entière avec équipement, officiers, etc., qui est passé du côté de l'opposition. Ça a toujours été des défections individuelles ou inter-individuelles, mais en tout cas, jamais quelque chose d'extrêmement dangereux pour le régime. Ensuite, le régime a également utilisé ses connexions avec les capitalistes de connivence, comme on les appelle en anglais, les crony capitalistes. Et il a fait appel donc à ces businessmen qui tirent leur fortune voilà, de leur proximité avec, avec le régime d'Assad. Donc c'est eux qui ont organisé des manifestations pro-régime, ce qui a permis au régime de se donner une meilleure image internationale. C'est eux qui ont également commencé à constituer des milices qui vont jouer un rôle très important à la fois dans le pourrissement de la situation dans les zones voilà, mixtes alaouites sunnites et aussi qui vont jouer un rôle extrêmement voilà, contre-révolutionnaire dès 2011. Et puis, ils vont également, enfin, atténuer un petit peu le fardeau de certaines populations en organisant des mesures de charité pour suppléer à des services publics complètement défaillants. Donc voilà, le régime a réussi donc à s'appuyer sur ses businessmen pour mobiliser une partie de sa base populaire et en même temps transformer une partie de cette base populaire en force répressive. Ensuite, le régime a enfin fait appel à la Russie, l'Iran et le Hezbollah pour le soutenir. Pour cela, il leur a concédé des avantages économiques énormes. Donc il faut savoir qu'il y a une grande partie des richesses naturelles qui sont progressivement en train de passer aux mains de compagnies russes ou de compagnies iraniennes. Donc évidemment, cette aide russe et iranienne militaire ne s'est pas faite voilà, sans contrepartie, une aide financière évidemment. Donc le régime de Bachar al-Assad a réussi aussi à s'assurer un soutien voilà, financier et militaire très important qui lui a permis de l'emporter, même si ça a eu des conséquences importantes puisque l'Iran et la Russie sont aujourd'hui dans des positions économiques extrêmement favorables dans les zones contrôlées par le régime. Ils vont également aussi bénéficier de toute l'économie de la reconstruction, etc., etc. Donc, au final, on peut dire que le régime a plutôt bien a mis en place un certain nombre de mesures qui lui ont permis que le soulèvement ne soit pas généralisé, que tous les sunnites ne se mobilisent pas contre lui, et également de mobiliser ses partisans voilà, par différentes manières, de limiter l'hémorragie de soldats, etc. etc. Mais en même temps, ça a eu un certain coût, puisque le régime étant gravement endetté à l'heure actuelle, le PIB de la Syrie ayant été divisé par 5 depuis 2011, hein, c'est quand même assez énorme, et bien évidemment, même la base populaire du régime commence à se rebeller contre le régime, dans le sens où, évidemment, il y a eu un durcissement des politiques néolibérales et d'austérité pendant la guerre, d'une part. Deuxièmement, les projets de reconstruction mécontentent énormément même la population favorable au régime, dans le sens où voilà, c'est des projets faramineux, luxueux, qui ne bénéficient pas du tout, même à la base populaire du régime, et qui donc indignent la population pro-régime. Et puis troisièmement, eh bien, les milices qui étaient censées uniquement lutter contre l'opposition, en fait, ont également des effets extrêmement négatifs sur les zones pro-régime, puisqu'il y a des pillages, des vols, des viols, des assassinats, etc. Et les milices sont plus ou moins incontrôlables par le régime. Donc voilà, le régime aujourd'hui fait face quand même à un mécontentement croissant de sa base populaire, avec même des manifestations, énormément de messages hostiles, non pas au régime en tant que tel, mais disons à ses politiques sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et puis, le régime, enfin, est face à des contradictions, c'est-à-dire qu'il doit ménager à la fois les capitalistes de connivence avec lesquels il est proche, il doit ménager les intérêts de l'Iran, il doit ménager les intérêts de la Russie, et donc, en fait, il y a des mécontentements, y compris du côté des proches du régime de Bachar el-Assad, et des divergences, ce qui fait que il y a une certaine rumeur qui dirait qu'apparemment, il y aurait une bisbille assez importante entre le régime et Rami Makhlouf, donc qui contrôlait par l'intermédiaire de ses sociétés 60% de l'économie syrienne en 2011, voilà, et un différend qui porterait sur le fait que en fait, ces businessmen ont atteint des positions de pouvoir politique économique et social tellement important pendant le soulèvement qu'ils n'ont pas envie de le rendre à l'État. Et donc, évidemment, ça crée des frictions assez importantes. Donc, voilà, le régime sort victorieux de cette contre-révolution, enfin quasiment victorieux, hein, mais voilà, ça n'a pas été voilà, sans aucun coup et sans aucune limite. Et on pourrait voilà, finir ce point en disant que dans la mesure où les politiques néolibérales et les conditions socio-économiques extrêmement mauvaises en Syrie en 2011, dans la mesure où elles constituent la raison d'une partie du mécontentement, outre la corruption du régime, le fait que voilà, il est perçu comme étant uniquement, enfin comme étant principalement au service d'une minorité de capitalistes proches de lui, eh bien ces deux facteurs se sont aggravés, c'est-à-dire que les politiques néolibérales sont encore plus dures, les conditions socio-économiques sont encore plus dégradées, et le régime apparaît comme encore plus au service d'une petite minorité de capitalistes de connivence. Donc, on peut légitimement penser que le régime voilà, ne sort pas indemne de cette contre-révolution, même si elle est victorieuse.
En fait, le régime a été très affaibli à tout point de vue et l'est de plus en plus. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est quand même maintenant les endroits où le régime combat encore. Par exemple, dans les endroits où il combat contre les milices alliées à la Turquie, aux côtés des YPG, en fait, c'est pas vraiment, c'est pas l'armée régulière du régime, quoi. C'est uniquement des milices qui souvent sont pas très convaincus. Les soldats de ces milices-là sont souvent décrits comme assez peureux ou battant en retraite assez rapidement parce qu'ils sont pas très convaincus eux-mêmes. Et par ailleurs, le régime, militairement, il est extrêmement dépendant de la Russie, de l'Iran et des alliés de l'Iran, comme par exemple le Hezbollah. Et à la fois, ça fait en sorte que le régime est quand même très faible politiquement. On voit qu'il n'y a pas de décision sur l'avenir de la Syrie qui peut se prendre sans l'accord de la Russie, notamment. Ça s'est vu récemment dans les négociations entre la Russie et la Turquie à propos du nord de la Syrie. Et des négociations qui ont abouti à la mise en place de patrouilles conjointes des armées russes et turques du coup contre le YPG, et une décision qui a quand même beaucoup déplu au régime qui défend son intégrité territoriale, etc. Et une décision qui a pourtant été prise par la Russie qui est officiellement son principal allié, quoi. Ce qui dit quand même beaucoup de la faiblesse de ce régime-là. C'est aussi une faiblesse économique. Tu me dis, le PIB, il a été divisé par 5. La monnaie, elle vaut plus rien. Maintenant, c'est quasiment... on n'est pas à près de 1000 livres syriennes pour $1. Ce qui, enfin, voilà, c'est ce qui dit quand même beaucoup de la faiblesse économique et politique de ce qui reste du régime syrien, même si, de fait, il y a une sorte de victoire militaire à la Pyrrhus. Et enfin, il y a aussi un contexte régional qui fait que le régime il est de plus en plus faible, en fait. Quand, enfin, il y a quand même de nouveau des soulèvements dans le Moyen-Orient, de l'Iran au Liban, en fait. Et en fait, c'est quelque chose qui affaiblit le régime pour deux raisons. La première, c'est que c'est des manifestations qui cible le régime iranien. Donc déjà, il y a eu un soulèvement en Iran qui a été très durement réprimé, mais qui quand même peut-être affaiblit le régime iranien et redonne confiance à la population pour des luttes futures. Et au Liban et en Irak, c'est aussi l'ingérence iranienne et les régimes alliés à l'Iran qui sont dénoncés. Un régime comme le régime syrien qui est assez dépendant du soutien iranien a peut-être de soucis à se faire si jamais il y avait soit un changement de régime en Iran, soit un recul des positions iraniennes au Moyen-Orient. Une autre chose à dire, c'est que dans la vague de contestation au Moyen-Orient qui a repris ces dernières semaines, il y a eu aussi des manifestations importantes en Syrie. D'abord dans les zones tenues par le PYD suite au retour relatif de l'armée du régime, on y reviendra, mais du coup suite à l'offensive turque dans le nord de la Syrie, le PYD à demander au régime de remettre ses troupes. Ça n'a pas été totalement une reprise en main de ces territoires-là par l'armée du régime, mais c'est quand même une présence militaire du régime et le régime cache pas du tout sa volonté de reprendre beaucoup plus totalement ces endroits-là. Et par conséquent, les populations sur place, qui savent très bien ce que voudrait dire pour elles un retour du régime, et notamment pour les personnes connues pour s'être opposées à Assad, qui sont en danger de mort, ces populations-là ont manifesté. Ces manifestations qui ont été réprimées, notamment à Raqqa ou autour de Deir ez-Zor par l'IPG. Il y a eu une grève générale à Manbij fin octobre, qui a elle aussi été réprimée, avec notamment l'arrestation par l'IPG des leaders supposés de la grève et la mise en scène vidéo des aveux forcés de ces personnes-là, qui avouent, un peu comme au temps du stalinisme, face caméra, qu'elles ont été payées par l'étranger pour déstabiliser le YPG alors que le peuple soutient les FDS. Et en fait, ces manifestations-là sont quand même des manifestations qui du coup, sont assez massives et sont clairement contre le régime. Et il y a eu aussi des manifestations dans, ce qui est peut-être plus étonnant, dans les zones qui avaient été reprises par le régime ces dernières années, quoi. Et il y a eu, du coup là on enregistre le 6 décembre, ces derniers jours il y a eu des manifestations de nuit dans pas mal de villes du sud de la Syrie, des personnes cagoulées qui déroulent des banderoles, etc., contre la dictature. Et aussi avec des revendications sociales. Et il y a eu une énorme manif, du coup, à Deraa, la semaine dernière, le vendredi 29 novembre. C'était vraiment une manifestation de masse, ouverte, en plein jour. Deraa, c'est un des berceaux de la révolution syrienne, qui a été reprise par le régime d'Assad. Et en fait, il y a eu deux ex-rebelles syriens qui avaient été réintégrés par le régime dans ce qui est appelé les supposés accords de réconciliation, même s'ils sont très rarement respectés et qu'il continue très souvent à y avoir des. Malgré le fait que le régime proclame sa volonté de se réconcilier, etc., il continue à y avoir des arrestations, des assassinats, des morts sous la torture, etc. Et donc, deux ex-rebelles syriens, réintégrés par le régime, ont finalement été assassinés, parce que leur ralliement paraissait douteux, quoi. Et au moment de leur enterrement, le lendemain, c'est des milliers de Syriens qui ont surgi au grand jour, encadrés par des groupes armés. Et les slogans, c'était le peuple veut la chute du régime, du coup. Qui était déjà un slogan partout dans le monde arabe en 2011, et comme en Irak, l'Iran dehors. Ce qui, justement, revient à ce que je disais sur l'impact en Syrie des manifestations dans tout le Moyen-Orient, quoi.
Ouais, on peut dire effectivement que la légitimité du régime, qui était déjà faible en 2011, eh ben effectivement, elle est encore pire, voilà, à l'heure actuelle. Et à la fois dans les régions qu'elle a reconquises, mais aussi d'ailleurs même auprès de sa propre base populaire, puisque au début, une des forces du régime avait été d'offrir un certain nombre d'avantages matériels aux fonctionnaires, aux familles des martyrs, entre guillemets, aux miliciens, etc., etc. Et puis, la situation financière de l'État syrien s'empirant, un certain nombre de ces avantages avaient été retirés et ça avait évidemment accru le mécontentement dans ses rangs. Et puis, une des autres faiblesses, évidemment, du régime de Bachar el-Assad, c'est le fait que, contrairement à peu près tous les États qui le soutiennent ou dont les relations sont en voie de normalisation avec lui, c'est-à-dire en fait à peu près à part l'Iran, même la Russie veut une solution politique au conflit avec des négociations, etc., etc., histoire que c'est une légitimité voilà, diplomatique, alors que le régime de Bachar el-Assad ne semble pas du tout prêt à ce genre d'exercice, ce qui lui avait déjà aliéné un certain nombre de régimes en 2011. Et ça me permet, et voilà, ce qui lui avait déjà aliéné un certain nombre de régimes en 2011, comme par exemple l'Arabie Saoudite, le Qatar ou encore la Turquie. Il faut savoir que ces trois pays qu'on a présenté pendant un certain nombre d'années comme les principaux voilà, financeurs et fournisseurs d'armes à l'opposition syrienne, en réalité avait plutôt des très bonnes relations avec le régime de Bachar al-Assad en 2010-2011, des relations qui s'étaient améliorées au fur et à mesure des années 2000, et que pendant plusieurs mois, alors même que le régime réprimait violemment la population syrienne, ces puissances régionales ont simplement demandé à Bachar al-Assad d'intégrer quelques membres de son opposition officielle, des frères musulmans, etc., etc., et de faire quelques réformes cosmétiques qui n'auraient rien changé au fond du problème politique, économique et social que rencontraient les gens qui se sont soulevés en 2011. Et Bachar al-Assad refusant toute forme de réforme, ne serait-ce que cosmétique, on pense que ce serait lié au fait que Bachar al-Assad avait peur que, en essayant de faire des gestes d'ouverture et de réforme, il serait condamné à la chute comme Ben Ali et Moubarak, et pensait qu'au contraire, la seule manière de se maintenir, c'était de ne pas discuter avec l'opposition et de réprimer à tout bout de champ les manifestants, ce qui est ce qu'il a fait depuis le début. Mais donc, c'est seulement dans un deuxième temps que ces différents États, qui ensuite se sont appelés les amis de la Syrie, ont commencé à se retourner contre le régime de Bachar al-Assad, non pas en soutien à l'insurrection, mais plutôt pour essayer d'installer à la place de Bachar al-Assad un régime qui serait plus favorable à leurs intérêts. Et une grande partie de l'opposition en exil et de ses organes soi-disant représentatifs, comme le Conseil national syrien, la coalition, etc., n'ont été, de l'avis en tout cas de Joseph Daher, que des instruments de ces puissances régionales pour faire avancer leur propre agenda, qui en gros, on change de personnage à la tête de l'État, mais on ne touche pas à l'appareil répressif, au capitalisme néolibéral de connivence, etc., etc. Il s'agissait en réalité simplement de mettre fin à un régime pro-Iran. C'est-à-dire, en fait, ce qui a vraiment été le moteur du basculement de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et du Qatar contre Bachar al-Assad, mais pas aux côtés de l'insurrection, je dis bien contre Bachar al-Assad, ça a été le fait qu'il s'est trop rapproché de l'Iran et que donc, dans ce sens-là, il apparaissait comme un obstacle à l'affaiblissement de la puissance iranienne. Et donc, puisque le but n'était pas le triomphe de l'insurrection syrienne, mais bien simplement un changement de politique de l'État syrien en matière de politique internationale, ces différents États, loin de financer l'armée syrienne libre, d'aider matériellement et financièrement l'insurrection de manière désintéressée, comme parfois on a pu le croire, en réalité ont financé des forces qui satisfaisaient directement leurs objectifs géopolitiques, soit qui, du fait de leur dépendance financière vis-à-vis de la Turquie, de l'Arabie du Qatar, ont fini par devenir simplement des auxiliaires de ces puissances étrangères. Et le cas le plus spectaculaire, évidemment, dont on a beaucoup parlé, ce sont tous les débris de l'armée syrienne libre qui ont fini comme des mercenaires au service de l'État turc. Mais il y a un peu le même cas pour le Qatar. Là, c'est plutôt du côté des islamistes radicaux. Et il y a aussi le cas de l'Arabie Saoudite. C'est le cas d'autres acteurs. Donc finalement, ces soi-disant amis de la Syrie, ce qu'ils ont fait... le résultat, entre guillemets, de leur action, ça a été de diviser l'opposition, confessionnellement, militairement, en termes d'objectifs. Division qui a fini aussi par attiser des conflits entre différentes formes, les différentes forces d'opposition, qui a favorisé la montée en puissance des groupes islamistes radicaux au détriment de l'opposition laïque et de l'armée syrienne libre. Le passage d'une partie de l'armée syrienne libre du côté de groupes islamistes radicaux, etc., etc. Et finalement, ce que dit Daher, c'est que c'est pas étonnant que à la fois ces puissances ont desservi le soulèvement syrien et l'opposition à Bachar al-Assad par en menant chacun de leur côté voilà leur petite guéguerre voilà pour leurs intérêts géostratégiques, mais d'autre part donc c'est pas étonnant que ces régimes depuis 2018 eh bien se rapprochent du régime puisqu'ils ont compris que de toute façon ils réussiraient pas à renverser ce régime, donc ils sont en train de normaliser progressivement leur relation donc avec ce régime et donc il y a eu un certain nombre voilà de diplomates par-ci de part et d'autre qui sont venus se rendre visite, et donc la parenthèse des soi-disant amis de la Syrie est terminée et on voit bien évidemment avec l'offensive turque, puisque c'est quand même un des objets centraux de notre émission, que finalement évidemment la Turquie elle non plus ne cherche pas renverser Bachar al-Assad, mais plutôt elle cherche à assurer ses objectifs géopolitiques, y compris peut-être dans le futur en faisant une alliance avec le régime pour écraser de manière définitive le PYD.
Oui, bah, justement, à la limite, on peut, sur ce sujet-là, sur la manière dont une partie de l'opposition à Assad a été inféodée à la Turquie, je pense qu'il y a différentes choses à dire, mais ce qui a été assez révélateur, c'est, je pense, la manière dont beaucoup de médias récemment ont décrit les mercenaires, ou ceux qu'on appelle les supplétifs de la Turquie, qui du coup ont participé à l'invasion du Rojava, en les décrivant souvent comme des djihadistes, ou alors en relayant soit des rumeurs, soit des discours assez exagérés, les décrivant très majoritairement comme des membres d'Al-Qaïda ou d'anciens membres de Daesh. Et en fait, c'est surtout une rumeur qui vient du fait que beaucoup de groupes de l'ASL ont servi à exfiltrer des déserteurs de Daesh, qui pour certains se sont mis à combattre pour l'ASL. Mais l'histoire en fait de ces groupes-là, ça a été notamment le fait d'avoir été défait pour certains face à Daesh assez tôt, notamment du côté de Derazor, soit pour un certain nombre d'avoir en fait eu leur sort négocié par les différentes puissances, et notamment au cours des différents cessez-le-feu, lors des reprises notamment d'Alep, de la Ghouta, un certain nombre de combattants en fait ont été exfiltrés par la Turquie, et pour accepter cet accord de cessez-le-feu en fait la Turquie les a payés, leur a fourni des armes, etc. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que des groupes de l'armée syrienne libre sont devenus des groupes qui ont été complètement inféodés à la Turquie, qui n'ont plus d'agenda propre et qui n'ont plus combattu le régime, et qui se retrouvent maintenant à uniquement combattre le YPG dans les zones du nord de la Syrie, qui jusqu'à aujourd'hui avaient été plutôt épargnées par la guerre. Et en fait, je pense que ça s'explique moins par des questions idéologiques ou par le fait d'expliquer que tel groupe serait plus islamiste que tel autre groupe de l'ASL, mais ça s'explique beaucoup plus par une forme de mercenariat, quoi. Et dire ça, en fait, décrire des groupes comme des mercenaires plus que comme des djihadistes, c'est pas du tout plus les défendre ou je sais pas quoi, c'est surtout une manière d'essayer de comprendre une logique géopolitique un peu froide. Et à ce sujet, on peut par exemple lire un entretien assez édifiant, en fait, avec un combattant d'Ara al-Sharqiya, qui est une des milices de l'armée nationale syrienne, une des milices notamment accusée de crimes de guerre par les différents rapports à propos de ce qui se passe en ce moment dans le nord de la Syrie, on y reviendra. Du coup, c'est un entretien qui a été publié sur le site Solitude Intangible, et du coup, c'était le 19 novembre, la date de publication, et ça s'appelle « De la révolte contre Assad à la lutte contre le PKK sous commandement turc ». En fait, c'est un combattant du coup syrien qui vient du côté de Deir ez-Zor, qui a combattu contre le régime, qui a combattu contre Daesh, puis avec son groupe qui est passé de l'est de la Syrie à l'ouest, et qui rapidement, au fur et à mesure des défaites, a vu sa milice placée directement sous patronage turc, qui est maintenant dans un combat qui a quand même beaucoup moins de sens que celui contre le régime ou contre Daesh. Quoi. Et cet entretien, je pense, montre assez bien l'histoire de cette brigade. Et pour ce qui est des puissances alliées au régime, notamment la Russie, on peut remarquer en ce moment qu'elle défend un agenda assez précis quand on voit les négociations qui se sont ouvertes le 30 octobre en Suisse, en fait, c'est un comité qui vient d'être créé en Suisse, c'est pas le comité constitutionnel syrien. En fait, il est chargé de préparer une nouvelle négociation à Genève, dans le cadre de négociations entre le régime et une partie de l'opposition, quoi. Ça, c'est quelque chose qui a été lancé par la Russie et qui s'oppose au processus d'Astana. Et le processus d'Astana, il avait créé quatre zones de cessez-le-feu en 2017, quoi. À Damas, du coup, à la Ghouta orientale, à Deraa, à Rastan, à Idlib. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'était des promesses en l'air sur la question du cessez-le-feu, parce que dans les zones que je viens de citer, en fait, trois des quatre, c'est-à-dire la Ghouta, Deraa et Rastan, ont été reprises par le régime en 2018, quoi. Et là, qu'on assiste à une négociation entre une partie de l'opposition officielle en exil et le régime qui négocie directement pour genre écrire une nouvelle constitution et mettre en place une supposée réconciliation. Et cette négociation-là a dit rien de l'avenir des territoires qui ne sont pas contrôlés par le régime, alors qu'en fait, ça dépendra probablement moins de ces négociations-là et même moins de l'attitude du régime que des négociations entre différents États, et notamment entre la Russie et la Turquie. Et cette opposition-là négocie avec un régime qui ne cache pas une volonté de réunifier la Syrie, et on sait comment en fait le régime se comporte. Quand il reprend des zones, malgré les supposés accords de réconciliation ou je ne sais pas quoi, il y a en ce moment un accroissement du nombre de morts à la prison de Sendaya, qui est un centre de torture à 30 km au nord de Damas. Et les accords de réconciliation, ils ne sont jamais respectés. Je parlais tout à l'heure des deux ex-rebelles de Deraa qui ont été assassinés, malgré leur supposée réconciliation avec le régime et leur réintégration dans l'armée syrienne. Il y a régulièrement des arrestations. Des assassinats, des médecins notamment qui avaient soigné beaucoup de blessés liés aux actions du régime dans les hôpitaux en zone libérée ont été assassinés ces derniers mois. Et parfois, il y a des manières détournées en fait d'exécuter les ex-rebelles quand ils sont réintégrés dans l'armée syrienne. Souvent, c'est les envoyer en première ligne, quoi. Et Leyla Hashami a disait notamment que une des craintes du YPG, et ce qui est probablement la raison principale pour que les FDS et les YPG refusent d'intégrer l'armée syrienne, c'est qu'il leur arrive la même chose, quoi, de voir en façade une supposée soit réconciliation, soit alliance, mais que dans les faits, ce soit une forme d'exécution et d'affaiblissement et une manière de contourner en fait tous les traités internationaux sur la torture, sur les exécutions sommaires, etc., ce qui est difficilement possibilité de prouver, au regard du droit international, que telle ou telle personne a été sciemment envoyée en première ligne pour la faire mourir, quoi. Et du coup, là, on voit en ce moment quand même une volonté du régime de reprendre tout le territoire. C'est du moins ce qu'il proclame, même s'il y a évidemment probablement une conscience de la part d'Assad du fait que ça ne dépendra pas qu'à lui. Et le régime est assez faible et ça se négociera évidemment entre les différents États. Et j'espère que ça dépendra aussi des mouvements populaires. J'ai parlé des manifestations qu'on reprise dans les zones du régime ou dans les zones tenues par le PYD. Et il y a eu aussi des grosses manifs dans ce qui reste des zones de l'opposition, notamment autour d'Idlib. C'est des manifestations qu'on reprise en même temps que les manifestations au Liban et en Irak. C'est des manifestations du coup en soutien aux autres révoltes contre l'Iran qui est allié à Assad et aussi contre Ayad Tahrir al-Sham qui est le principal groupe djihadiste Idlib, qui administre une partie de la région d'Idlib et qui a récemment notamment à la fois persécuté des activistes de la société civile et aussi augmenté les taxes, le prix de l'électricité.
Oui, bah, je pense que c'est une bonne manière de conclure cette première partie de l'émission, puisque voilà, tu as abordé déjà un petit peu voilà, la question de la possible reconquête par le régime de la totalité du territoire dont on va parler dans la seconde partie, et notamment on va parler également dans la seconde partie du bilan de l'offensive turque qu'on a déjà un petit peu évoqué, mais un petit peu pour faire un état des forces. Et puis on finira par une économie politique aussi du PYD, puisque on a beaucoup parlé dans l'émission sur l'agression turque au Rojava des aspects plus géopolitiques du PYD. Mais on pensait que c'était quand même important de faire un peu un bilan aussi de ce qu'a fait le PYD, qui est un acteur qui risque de disparaître de la scène syrienne au cours des prochains mois s'il est effectivement attaqué à la fois par la Turquie et par le régime. Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aux dernières nouvelles du front du Rojava et de Syrie, toujours donc avec Vivian Petit, co-auteur sur ce sujet de plusieurs articles, et qui a également participé à plusieurs émissions en notre compagnie. Et donc on va maintenant parler un petit peu du bilan de l'offensive turque. Alors rappelons simplement que cette offensive turque s'inscrit... dans la politique de l'État turc de lutte contre le PKK depuis les années 80, de lutte contre tous les mouvements politiques qui défendent une forme d'autonomie, voire d'indépendance des Kurdes, du Kurdistan vis-à-vis de l'État turc. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, depuis 2016, l'État turc a mené trois opérations militaires contre le PYD, donc qui est la branche syrienne du PKK, et contre son autonomie, non pas parce que la Turquie serait particulièrement contre la forme d'organisation politique qu'on prête au PKK, mais tout simplement parce que le PYD PKK est l'ennemi de l'État turc, et c'est donc en tant qu'ennemi qu'il a été attaqué une première fois en 2016 lors de l'opération Bouclier de l'Euphrate, qui visait à empêcher la jonction entre le canton d'Afrin, qui est le cœur un petit peu historique du PYD PKK en Syrie, d'une part, et d'autre part, les cantons de Kobané et jusqu'à la frontière irakienne. Ensuite, il y avait eu l'opération en 2018, donc la conquête d'Afrin, qui s'était soldée par de nombreuses violations des droits humains, des expulsions... d'une partie des Kurdes de la ville, d'une certaine manière, comme le dit Leyla Alchami, des changements démographiques forcés initiés par l'armée turque et ses supplétifs syriens. Et donc là, on a eu une nouvelle offensive en 2019 qui visait à créer une zone de sécurité de 30 km tout le long de la frontière turque, à la fois pour en chasser les YPG pour que le PYKK ne dispose pas en Syrie d'une base arrière pour ses opérations en Turquie, d'une part, et d'autre part, pour que la Turquie se débarrasse d'une partie des réfugiés syriens qui sont sur son territoire. À l'heure actuelle, à peu près 2 millions de Syriens sont sur son territoire. Et donc, voilà, évidemment, ces opérations militaires ont un certain nombre de conséquences géopolitiques dont on a déjà un petit peu parlé dans l'autre émission, mais aussi des conséquences humaines assez graves.
Ouais, bah à la fois politique et humaine, quoi. Genre, bah, cette dernière opération, celle qui a commencé le 9 octobre dernier, elle a à la fois affaibli le PYD et son administration au Rojava, affaibli l'opposition à Assad et était terrible pour les civils, quoi. Elle a aussi renforcé les tensions entre les différentes communautés, quoi. Il y a un certain nombre de civils Kurdes, par exemple, qui ont fui leur ville et leur village parce qu'ils sont terrifiés par l'armée turque, qui est historiquement l'armée de l'État oppresseur du peuple kurde. Et parallèlement, le PYD, qui est en négociation avec le régime depuis 2012, a renforcé ses liens avec le régime et le retour de l'armée syrienne demandé par le PYD dans un certain nombre de villes et de villages pour empêcher l'invasion turque, c'est quand même une perspective terrifiante pour tous ceux qui se sont opposés à la dictature depuis 2011. Aussi, pour finir sur l'impact politique de ça, c'est et ce qui doit être critiqué, c'est la manière dont l'État turc a inféodé un certain nombre de brigades de l'insurrection syrienne pour les intérêts de l'État turc et pas pour les intérêts de la population syrienne qui s'est révoltée. La première en fait des opérations sous commandement turc dont tu parlais, du coup bouclier de l'Euphrate en 2016, c'est quand des brigades d'Alep donc sont allées combattre l'État islamique à Jarablus, soutenues par l'armée turque. Et en fait, le but de l'armée turque, c'était d'éviter que la ville soit reprise par les forces démocratiques syriennes et le YPG, en fait. Et du coup, cette pression mise par l'armée turque sur des brigades d'Alep pour qu'elles prennent une ville avant le YPG, ça a dégarni le front d'Alep. Et c'est à ce moment-là que le régime et son allié russe avaient renforcé leurs attaques contre la population jusqu'à la reprise d'Alep à la fin 2016. Et c'est la même chose au moment de la prise d'Afrine. Par du coup les groupes alliés à la Turquie, c'était au même moment en fait que l'attaque du régime à la Ghouta. Et la Ghouta était assiégée et du coup ces groupes-là n'auraient pas pu aller à la Ghouta combattre le régime. Cependant, ça les a empêchés d'ouvrir un second front contre le régime. Et on le disait dans la première partie de l'émission que l'armée du régime elle est quand même très affaiblie et peut pas tenir deux fronts en même temps. Et à ce moment-là, en fait, la Turquie a empêché un certain nombre de groupes de l'ASL d'ouvrir un second front contre le régime, ce qui aurait grandement aidé la population de la Ghouta, en fait, d'affaiblir l'armée syrienne, d'empêcher l'armée syrienne de concentrer ses troupes sur l'attaque de la Ghouta. Et en fait, non, ce qu'a fait l'armée turque, c'est mettre à ce moment-là la pression aux différents groupes qu'elle a inféodé et qu'elle a mis sous sa coupe et de les transformer en mercenaires pour qu'ils prennent Afrine. Et quand même, c'est quelque chose qui a pas grand rapport avec l'insurrection syrienne. Ces groupes-là, Afrine, ils sont vraiment décrits par la population comme des occupants. Il y a un certain nombre de crimes de guerre qui leur sont reprochés et on peut notamment parler du rapport Human Rights Watch qui est sorti du coup il y a peu le 27 novembre dernier. C'est un rapport qui du coup se concentre sur les crimes de l'armée nationale syrienne, du coup la fédération de groupes issus de l'ASL qui sont sous commandement turc maintenant. Et ce rapport du coup documente les différentes violations des droits humains dans ce qui est appelé la zone safe, la zone sûre, la zone sécuritaire de l'armée turque dans le nord de la Syrie, du coup dans 30 km à la frontière. Et en fait, ces groupes de l'armée nationale syrienne donc sont accusés de confiscation de biens, de pillage et aussi de blocage du retour des résidents turcs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de réfugiés, des centaines de milliers de personnes qui ont fui les combats et les bombardements. Et il semble beaucoup plus difficile lorsqu'on est kurde, de pouvoir revenir dans les villes et les villages qui ont été reprises par l'armée turque et par l'armée nationale syrienne. Il y a même eu l'assassinat de trois personnes à Ras Al Ain, du coup une ville qui est appelée Serekaniye en kurde, du coup qui était juste en fait trois civils kurdes qui voulaient simplement revenir dans leur ville. Ça leur a été refusé par les groupes, ils ont essayé de forcer et de revenir quand même et ils se sont fait assassiner. Ce rapport, évidemment, parle aussi de l'exécution d'Afrin Khalaf, qui était une femme politique, membre d'un parti qui est une scission du PYD, un parti créé notamment à Raqqa, pour permettre la négociation avec à la fois la Turquie et l'opposition syrienne, et permettre une sorte de transition démocratique dans le cadre de négociations entre les différents États, etc. Et cette femme-là a été exécutée, et elle et des personnes qui l'accompagnaient, par Ahrar al-Sharqiya, qui est un des groupes de l'armée nationale syrienne. L'armée nationale syrienne a répondu, en fait, elle a reproché essentiellement l'absence d'enquête sur le YPG de la part du Human Rights Watch. C'est factuellement faux. Il y a eu un certain nombre de rapports du Human Rights Watch, en fait, sur les violations des droits humains commis par le YPG. C'est des rapports qui parlaient notamment des déplacements de population qui ont été aussi induits par l'action du YPG, même de déplacements de population sur des bases ethniques. C'est quelque chose qui arrivait beaucoup plus souvent à des Arabes et des Turkmènes qu'à des Kurdes. Les rapports du Human Rights Watch ont aussi signalé qu'il était beaucoup plus difficile pour des Arabes de revenir dans leur ville quand elles étaient tenues par les YPG. C'est des rapports qui ont aussi parlé des atteintes à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, commises par les YPG, des persécutions contre des activistes kurdes opposés au régime par les YPG, etc. Du coup, je pense que les rapports du Human Rights Watch sont à prendre au sérieux, et notamment là, en ce moment, leurs critiques contre la Turquie et leur documentation assez précise de toutes les violations des droits humains et du comportement des brigades alliées à la Turquie dans les villes qu'ils ont reprises, quoi. Genre, et en fait, ces accusations-là, elles ne sont pas portées que par Human Rights Watch. Les groupes de l'armée nationale syrienne, en fait, ça fait quand même un moment qu'ils sont décrits comme des occupants dans toutes les villes qui reprennent. Par exemple, Ahrar al-Sharqiya, donc un groupe qui est... Ahrar al-Sharqiya, ça veut dire l'armée de l'Est, en fait. Du coup, c'est essentiellement des personnes qui viennent de Deir-Ezzor, qui ont pris les armes d'abord contre le régime, puis qui ont été défaites par Daesh, et ensuite qui se sont du coup mis sous patronage turc. Ça fait partie des principaux groupes qui ont participé à la prise d'Afrin. Et à Afrin, ils sont vraiment accusés de se conduire comme des occupants, de terrifier la population. Ils ont saccagé des magasins parce qu'ils vendaient de l'alcool. Ils sont accusés d'avoir kidnappé des gens pour des rançons, d'avoir participé à des pillages, de vraiment terrifier la population, et aussi d'avoir une sorte de prosélytisme religieux et de contrôle des comportements, notamment d'avoir mis en place une campagne en lien avec une organisation salafiste d'Idlib pour mettre fortement la pression sur les femmes pour qu'elles portent le voile intégral, etc. Il y a eu des témoignages dans la presse récemment, en plus de ce rapport-là du Human Rights Watch, notamment dans le New York Review of Books, c'est la brigade du sultan Mourad, du coup une des autres brigades issues de l'ASL, qui fait partie de l'armée nationale syrienne, qui est accusée dans un article d'Elisabeth Turskov, de différentes violations. Et ce qui est intéressant, c'est le témoignage notamment de Digla, une femme kurde qui vit toujours à Afrin, et qui elle-même était connue en tant qu'opposition au PYD, et en tant qu'opposante au régime, qui en fait a elle-même été détenue pendant un mois par ces brigades-là, et qui dit que ça, c'était vraiment le tarif très léger. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle était connue comme une opposante au PYD qu'elle a été détenue seulement pendant un mois, et elle parle vraiment de femmes qui sont, elles, battues et torturées quand elles sont... supposé être un peu trop proche du PYD ou un peu trop opposé à la Turquie, quoi. Et évidemment, enfin, là, du coup, le rapport du Human Rights Watch aux différents articles dont je viens de parler se concentre sur les crimes dont sont coupables ces brigades-là, et j'ai surtout parlé là-dessus, pas tellement pour donner des bons et des mauvais points, parce qu'en fait, il y a ce genre de rapport sur les différents camps en présence. J'ai dit, il y a eu des rapports analogues à propos des YPG, il y a eu des violations commises dans un certain nombre d'endroits par aussi des groupes de l'ASL, y compris dans leur combat contre le régime, c'est-à-dire des exécutions sommaires de soldats du régime une fois arrêtés, etc. Du coup, c'est pas tellement pour recenser les violations parce que politiquement, ce sera assez pauvre en fait de réduire des faits politiques à des faits divers, mais c'est pour comprendre un peu une sorte de nihilisme guerrier et une sorte d'absence de sens dans le combat, dans ce qui en fait devient à la fois une guerre civile et à la fois une guerre entre États par l'intermédiaire de brigades qui sont converties en mercenaires, quoi. Et du coup, je parlais des violations commises par les brigades pour cette raison-là, mais il y a évidemment des violations commises par la Turquie en tant qu'armée régulière, et notamment en tant qu'armée qui a une force aérienne, et notamment les bombardements au napalm et au phosphore, c'est-à-dire des armes chimiques, et les prises pour cible de zones civiles, quoi. Par exemple, le lundi 2 décembre, à Tarifat, il y a eu un bombardement qui a fait 10 morts civiles, dont 8 enfants.
Oui, oui, effectivement, on voit qu'à l'heure actuelle, en Syrie, on est plus dans une situation révolutionnaire. Finalement, il y a des manifestations, mais globalement, c'est la victoire quasi totale, hein, des forces, soit qu'on peut clairement qualifier de contre-révolutionnaires, soit de force qu'on ne peut pas qualifier de révolutionnaire comme le PYD, puisque là, voilà, on va en venir à la fois au bilan de l'offensive turque, disons, dans la perspective d'un deuxième round, et puis également à la question de l'économie politique du PYD, analysée non pas simplement comme une force militaro-politique, mais bien comme une forme de proto-État et qui a quand même gouverné une partie de la Syrie depuis quelques années. Donc c'était important aussi de tirer un bilan de sa gestion et des transformations que souvent on lui impute. Alors, pour la question du bilan de l'offensive turque dans l'optique d'un deuxième round, là je vais me baser sur le rapport donc de Patrick Henny et de Arthur Kenney, donc qui sont récemment rentrés de Syrie et qui donc pensent que d'une part le PYD, contrairement à ce que on a pu lire, n'est pas dans une position absolument victimaire puisque globalement ils s'en tirent pas trop mal finalement dans le cadre de cette opération, mais par contre le fait qu'ils s'en tirent pas trop mal fait qu'il y aura forcément un deuxième round. Alors du coup, voilà ce qu'ils disent. Le PYD a réussi à maintenir l'essentiel de son appareil administratif et militaire, notamment 200 000 fonctionnaires. Donc c'est là où on voit quand même qu'il s'agit de pas juste une petite force politico-militaire, mais bien d'un proto-État, hein, 200 000 fonctionnaires qui sont eux-mêmes deux fois mieux payés que les fonctionnaires du régime qui ont même été récemment augmentés. Le PYD a perdu globalement peu de soldats, il a réussi à se faire protéger en partie par l'armée du régime sans lui céder trop de terrain, sans lui céder, disons, le contrôle de territoires entiers, même si, comme tu l'as bien dit, hein, le retour du régime se fait quand même sentir et la population peut sentir que le régime est tout proche. Mais malgré tout, voilà, l'armée du régime reste globalement sur une ligne de front face à l'armée turque sous pression du PYD qui arrive pour l'instant à la maintenir simplement en position de combat et pas en tant que force de reconquête encore. Le PYD bénéficie encore d'une protection américaine à l'est au niveau des champs pétroliers. Il est parvenu à maintenir son contrôle sur une partie des frontières de son territoire, hein, contrairement à ce qu'on peut penser quand on regarde un petit peu les cartes qu'on a vues circuler après les accords entre la Turquie la Russie qui donnait toute la frontière soit à la Turquie, soit à des patrouilles turco-russes. Le PYD contrôle encore une partie des frontières du nord-est de la Syrie, ce qui est essentiel pour l'approvisionnement en nourriture, etc., etc., mais bon, surtout pour son commerce de pétrole, d'armes, etc. Et enfin, le PYD, et en l'occurrence le PKK, n'a rien cédé au régime des négociations depuis l'accord de mi-octobre. Donc par exemple, il a refusé de s'intégrer dans l'armée syrienne. Bon, évidemment, il faudrait être complètement stupide pour le faire comme tu l'as bien dit, puisque ça leur ôterait toute puissance autonome et ça pourrait même se finir très mal pour eux. Ensuite, bon, l'armée turque qu'on présentait comme voilà, la grande vainqueur, malgré tout, n'est pas complètement satisfaite. Elle a été surprise par l'accord entre le régime et le PYD, d'une part, et puis d'autre part, elle a été contrainte dans son offensive par deux facteurs. D'une part, c'était compliqué d'avancer vers l'ouest de la zone qu'elle a conquise assez rapidement, qui est en gros un petit peu, on va dire, vraiment au nord de la Syrie, hein, ni au nord-est à l'extrême, ni non plus dans la zone de Kobané. Elle n'a pas pu prendre Kobané parce que bon, c'était un peu compliqué symboliquement de prendre Kobané, étant donné le symbole de Kobané en 2014, ça aurait trop attiré l'attention des médias occidentaux et de l'opinion internationale dessus. Et puis d'autre part, à l'est, il aurait fallu attaquer et prendre des zones chrétiennes, ce qui évidemment, encore une fois, n'était pas très bon pour la publicité et l'aura de son opération. Donc au final, la Turquie n'est pas vraiment satisfaite des résultats de son offensive, qui visait une élimination concrète complète du PYD et du PKK en Syrie, même si évidemment elle a pris quand même le contrôle d'une bonne partie de la frontière sur une propagande sur une profondeur de 30 km. Mais malgré tout, la Turquie ne pourra pas en rester là. La Russie, très rapidement, voilà, eh ben, même si elle est censée être maîtresse du jeu, malgré tout, elle a plus de moyens de pression sur le PYD, en dehors d'une menace de laisser faire en cas de nouvelle attaque turque. Donc voilà, aujourd'hui, il semble que, entre guillemets, les négociations entre la Russie, le régime d'une part et le PYD soient un peu au point mort, puisque bon, les deux ont très bien compris que le moindre compromis dans le sens de l'autre est évidemment un amoindrissement. Et le régime, justement, voilà, lui, il est quand même assez frustré, hein, puisque il reste cantonné aux frontières ou sur les lignes de front. Il n'est pas parvenu à mettre fin à l'administration du PYD. Il n'a pas réussi non plus à saper son pouvoir par différentes tentatives, voilà. Et donc, voilà, l'administration du PYD reste quand même globalement intacte. Et le régime, on sait très bien, n'acceptera pas longtemps cette situation. Après, simplement, quelque chose, un point qui permet quand même un petit rappel, c'est que les États-Unis ont permis cette opération. Hein, c'est Trump qui, en annonçant son retrait de la frontière, a permis aux Turcs de rentrer. Alors on a eu l'impression de l'extérieur que les États-Unis faisaient un peu n'importe quoi, qu'ils n'avaient pas du tout de ligne claire. En réalité, ils ont une ligne assez claire, c'est juste qu'ils en ont deux. D'un côté, il y a Trump qui veut, au nom d'une vision isolationniste, se retirer complètement de cette zone, pour laquelle il n'a aucun intérêt. Et d'autre part, le Pentagone qui veut au contraire son maintien pour rester un acteur géopolitique dans la région et aussi pour voilà, garder un contrôle sur les ressources pétrolifères de la Syrie. Et du coup, ce qui fait que, en fait, on assiste à une série de compromis qui vont dans un sens d'un désengagement graduel de l'armée états-unienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les États-Unis sont cantonnés uniquement à la zone pétrolière, parce que, bon, voilà, c'est un compromis entre Trump et le Pentagone. Donc, voilà, ce qu'on peut dire clairement, c'est que c'est qu'un premier round, parce que globalement, personne n'est content. Même pas les États-Unis. Bon, le seul qui, en fait, finalement, ne s'en sort pas si mal et qui se contenterait très bien d'un statu quo, c'est évidemment le PYD. Sauf que, voilà, évidemment, le PYD est quand même, malgré tout, dans une position de vulnérabilité, parce que, évidemment, la suite, s'il continue de bloquer les négociations avec le régime et refuse d'être progressivement phagocyté par lui, c'est une offensive à la fois du régime et à la fois de la Turquie. Voilà, ce qui serait évidemment très négatif pour lui. Alors du coup, Voilà, parce que la Turquie ne va pas en rester là et le régime, lui, veut à tout prix récupérer l'argent des hydrocarbures du Nord-Est, qui est sous contrôle du PYD. Et on sait qu'il se prépare à le reprendre, puisqu'il a signé des contrats pour des raffineries de pétrole lourd récemment, et que ce pétrole lourd est uniquement produit dans la région sous contrôle du PYD. Donc on sait que le régime veut reprendre, pour des raisons à la fois politiques et symboliques, mais aussi pour des raisons économiques, cette région. Donc voilà, le PYD, voilà, en cas de retrait de l'armée états-unienne, risque de se faire attaquer à la fois par la Turquie et par Assad, notamment ces deux acteurs se décident à implémenter, y compris sous une forme modifiée, les accords d'Adana de 1998. Même si ces accords ne sont pas contraignants juridiquement, c'est des accords qui autorisaient la Turquie, au nom de sa sécurité, etc., à intervenir en Syrie, et le régime à faire en sorte que la sécurité de la Turquie ne soit pas menacée. Donc en gros, ce serait là en l'occurrence le ça permettrait ça serait une base, une sorte de base légale entre guillemets pour et diplomatique pour l'écrasement du PYD. Le régime refuse tout compromis lui aussi avec le PYD. Il veut pas de fédéralisme, pas de reconnaissance politique des droits des Kurdes. Il est prêt à faire quelques petites mesures cosmétiques, notamment culturelles. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que le PYD, théoriquement, devrait faire des concessions parce qu'en fait, le régime n'en fera pas et que la Turquie ne se satisfera pas de ce statu quo et que tôt ou tard, la Turquie et Assad vont se rapprocher et vont au détriment du PYD qui est entre le marteau et l'enclume. Mais d'un autre côté, le PYD ne peut pas faire de concessions parce que sinon, amoindrirait de manière définitive sa puissance. Donc au final, on s'achemine sans aucun doute vers un deuxième round violent.
J'aurais tendance à aller dans le même sens que toi, en fait. Le fait que l'armée syrienne protège à la fois ses frontières et à la fois une partie de l'administration du pouvoir du PYD, c'est quelque chose qui est peut-être dans l'intérêt de la direction du PYD, mais probablement assez peu dans l'intérêt de la population. Une militante humanitaire française qui était allée au Rojava en tant que médecin pour former des soignants qui travaillaient dans un hôpital du Rojava m'avait quand même décrit il y a quelques mois que un certain nombre de Kurdes, y compris des gens proches, voire membres du PYD, était assez terrifié, par exemple, d'un retour du régime, en disant que le simple fait d'avoir, par exemple, travaillé avec des associations occidentales proches de l'opposition à Assad, c'était quelque chose qui, par exemple, les mettrait en danger de mort s'il y avait un retour de l'armée du régime. Et là, on est dans une sorte d'entre-deux, en fait. L'armée du régime n'a pas repris totalement le pouvoir dans les villes où elle s'est déployée, mais elle met quand même une certaine pression, et on sait très bien que le régime ne lâche jamais rien, ne fait jamais d'efforts sans contrepartie. Il y a eu une interview de Bachar al-Assad, publiée de manière assez indécente dans Paris Match, qui a fait sa une sur le fait que Assad allait nous dire ce qu'il allait faire de nos djihadistes français, c'est-à-dire sans prendre en compte aucun autre enjeu dans la perspective de Paris Match, que l'enjeu sécuritaire français, alors qu'il y a peut-être d'autres questions qui se posent, par exemple, est-ce qu'il va y avoir ou non d'autres massacres en Syrie. Dans cette interview, en fait, Assad disait clairement que son but était de ne pas reprendre les prisons gérées par les YPG dans le nord de la Syrie. Il a aussi, comme tu le dis, une volonté de reprendre en main l'administration de ces territoires-là, et notamment pour avoir les revenus du pétrole. Il y a aussi le YPG qui a participé à la répression des manifestations contre le régime ces derniers temps, à la fois autour de Deir ez-Zor, autour de Raqqa, qui a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrêté des grévistes de Manbij. Et en fait, on peut difficilement savoir si le YPG le fait pour défendre son pouvoir, c'est-à-dire par refus qu'il y a d'autres forces politiques dans les territoires qu'il administre, ou s'il le fait sous pression du régime, mais... C'est très probablement un mélange des deux, quoi. Et dans tous les cas, Bah, en fait, il y a une certaine propagande du PKK qui, en France, dit que c'est juste un accord militaire, il faut pas s'inquiéter, etc. Mais connaissant le régime syrien, je pense qu'on peut évidemment dire que les populations qui ont manifesté contre cet accord-là avaient toutes les raisons de s'inquiéter. Et en fait, comme le disait Leïla Hachami, notamment quand elle est venue à la ZAD il y a quelques semaines, ce qui était assez frappant dans ces manifestations-là, dans les villes tenues par le PYD, c'était ces manifestations-là étaient absolument pas des manifestations en soutien à l'invasion turque. C'était même pas tellement des manifestations dirigées contre le PYD. C'est des manifestations qui exprimaient une opposition vive au régime et une inquiétude extrêmement forte vis-à-vis de ce que pourrait faire le régime s'il reprenait totalement le pouvoir dans ces villes-là. Pour ce qui est de la protection américaine, c'est vrai que le Pentagone a réussi à mettre la pression à la Maison-Blanche pour faire en sorte que l'armée américaine se redéploie autour des zones pétrolières et que l'argent du pétrole serve à financer les FDS. Cela dit, évidemment, on l'a vu avec les évolutions récentes de la situation de la diplomatie américaine. Politiquement, c'est assez peu porteur d'être totalement dépendant d'un soutien extérieur et d'un soutien des États-Unis, dans la mesure où c'est un soutien qu'on a jusqu'au moment où ces forces-là et ces États-là n'ont plus envie de soutenir ou n'ont plus intérêt à soutenir, quoi. Il me semble quand même que l'autonomie du Rojava, elle a réellement du plomb dans l'aile, quoi. À la fois vis-à-vis de la Turquie, où elle a été quand même assez affaiblie près des zones frontalières, à la fois vis-à-vis du régime, dans la mesure où le régime semble revenir en partie en force, et aussi vis-à-vis de la population. Il y a quand même eu, même si c'était pas le PYD qui était d'abord ciblé, il y a quand même eu des manifestations fortes contre un accord entre le PYD et le régime, des manifestations qui ont été réprimées par le YPG. Un volontaire français qui était interviewé dans Vice disait qu'au moment de l'invasion turque, il s'est apparu que la population de Ras Alaïn, du coup Serekaniye, ne semblait pas forcément opposée à cette invasion-là. J'y reviendrai, mais il y a des sondages récents qui disaient qu'une part conséquente de la population arabe du Rojava avait été plutôt favorable à cette invasion turque. Et dans tous les cas, il semble que le PYD est quand même assez affaibli. Sauf en cas d'un soulèvement général qui permettrait de nouveau d'affaiblir très très grandement le régime. Mais on n'en prend pas le chemin. Il y a certes des manifestations à la fois dans les zones de l'opposition, à la fois dans les zones de régime et à la fois de Rojava contre le régime, mais c'est pas non plus l'insurrection généralisée. Le PKK ne table pas là-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire, à la fois dans sa répression de ces manifestations-là dans les zones qui tient, et à la fois dans le peu de relais qu'il a des manifestations dans les autres pays, quoi. Et juste pour finir, je peux envoyer par exemple un article qui est paru dans le numéro 27 de Ars Labour. Ars Labour, c'est un journal rennais, ça veut dire la grève en breton, que vous pouvez trouver notamment sur Internet, par exemple sur expansif.info, qui est un site d'information sur les luttes à Rennes. Et du coup, cet article-là s'appelait de Téhéran à Beyrouth, une seule révolution qui ne s'éteindra pas. C'est écrit par une franco-iranienne. Et du coup, ça revient à la fois sur les révoltes en Iran et sur leur répression, en incitant sur le fait que la répression a été extrêmement forte dans les zones kurdes, notamment en Iran, et qu'en fait, cette répression-là est très peu dénoncée à l'international. Et c'est notamment lié au fait que les Kurdes iraniens ont peu de réseaux diplomatiques en Europe comparativement au Rojava ou au PKK. Et en fait, ça, c'est lié, ce peu de relais-là, il est aussi lié au fait que le PKK, qui du coup en négociation avec le régime et avec Bachar el-Assad, a décidé de cesser ses activités en Iran, suite aux négociations entre le PYD et le PKK et le régime en 2012. Et du coup, la branche iranienne du PKK, le PJAK, a cessé toute activité en Iran. Et le PKK, notamment dans la diaspora kurde et à l'international, a décidé de ne pas soutenir le soulèvement récent en Iran, quand bien même les Kurdes s'y font massacrer. Et c'est quelque chose dont on a assez peu entendu parler en France, qui est assez révélatrice, à la fois d'une certaine solidarité sélective pour les Kurdes au sein de l'extrême gauche, et aussi de la stratégie du PKK, c'est-à-dire beaucoup plus tablée jusqu'à maintenant sur la négociation que sur les révoltes
Oui,
populaires.
et tout ça montre bien effectivement que finalement le projet du PKK PYD aujourd'hui, c'est malgré tout le verbiage idéologique, c'est la construction d'une forme d'État, même si ces États pourraient être juste des formes d'autonomie politique très avancées dans le cas d'une Syrie unitaire et d'une Turquie unitaire. Enfin voilà, une espèce de d'État kurde à cheval entre la Syrie et la Turquie, à l'exclusion de l'Irak avec lequel le PKK, enfin avec le gouvernement du Kurdistan irakien avec lequel le PKK entretient des très mauvaises relations, et de l'Iran qui du coup voilà est sacrifié sur l'autel de la réelle politique du PKK. Tout ça, finalement, est pas si étonnant que ça. Si on lisait, voilà, l'avertissement déjà il y a quelques années d'un révolutionnaire kurde, voilà, en Syrie, qui est cité par Leyla Al-Chami et Robin Yassine Kassab dans Burning Country, donc ce militant, voilà, disait déjà il y a quelques années. Il était réconfortant de voir tout ce mouvement de solidarité internationale soutenir la lutte des Kurdes de Syrie à la suite des attaques de Daesh contre Kobané en 2014. Mais il est décevant de constater que cette solidarité est restée dans une large mesure confinée à cette bataille particulière et qu'elle s'est souvent exprimée d'une manière naïve et sans distance critique. Depuis 4 ans, de nombreux révolutionnaires et rebelles syriens avaient également combattu Daesh dans d'autres parties du pays et initié des projets d'auto-administration. Mais leurs incroyables efforts ont été largement ignorés au niveau international, aussi bien par les gouvernements que par les gens prétendument de gauche. Y compris au plus fort de l'élan en faveur de Kobané, l'expression de la solidarité internationale avec la Syrie, et spécialement à l'Ouest, n'a pas gagné en maturité. Culturellement, elle est souvent tombée dans le piège des stéréotypes orientalistes simplistes diffusés par les médias dominants, reprenant les clichés de la beauté des femmes combattantes, des islamistes barbares, etc. Sur le plan politique, la distinction entre les aspirations et les droits revendiqués par un groupe de personnes et un modèle spécifique qui prétend les incarner a fait défaut. Puis il y a eu tout ce battage autour des déclarations du PKK et du PYD, affirmant qu'ils se transformaient en mouvement anarchiste. Le PKK est un parti très idéologique, nationaliste, fondé sur une discipline militaire stricte et une loyauté aveugle. Il repose encore sur le culte de la personnalité et sur le concept d'un parti unique dirigeant l'État et la société. Et en ce sens, il ne se distingue pas de nombreux partis de gauche qui ont été rongés par la calamité stalinienne et léniniste. Dès lors, bien qu'une plus grande solidarité soit nécessaire, elle se doit d'être critique, ce qu'on doit aussi distinguer de la solidarité sous condition. La solidarité critique signifie que vous soutenez une lutte par principe, avec un véritable soutien matériel, tout en gardant une attitude critique à l'égard du modèle ou de la force particulière qui revendique la représentation des aspirations populaires et vise à en tirer profit des objectifs politiques. Sans quoi, il est probable que la prometteuse expérience d'auto-administration dans les régions kurdes de Syrie donnera lieu au renforcement de la domination du PYD, de ses pratiques oppressives à l'encontre d'autres activistes et forces kurdes, au nom de la protection de ce qui a été réalisé jusqu'à présent, et un abandon progressif de ses réalisations en fonction d'intérêts politiques plus étroits. Donc finalement, déjà, ce révolutionnaire kurde, voilà, il y a quelques années, nous avertissait déjà sur les dangers, hein, du soutien inconditionnel au PYD. Et finalement, quand on lit les récents travaux de Sina Hatahet sur l'économie politique du PYD, on comprend ce qu'il y a derrière, finalement, toute la propagande en Occident du PYD-PKK. C'est-à-dire, en fait, finalement, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le restant de la région, à quelques petites exceptions près. Donc globalement, ce qu'il explique, c'est que l'idéologie du PYD, de la décentralisation, de la démocratie locale participée par en bas, d'un abandon de l'État-nation au profit du confédéralisme démocratique, des préoccupations écologistes et féministes, en fait, c'est traduit de manière très, très partielle depuis 2011-2012. En fait, ce qu'il explique, c'est que l'administration du nord-est syrien sous l'égide du PYD ressemble fortement à un État classique, avec une division des pouvoirs exécutifs, l'Executive Council, qui est lui-même extrêmement lié au commandement du PKK. Hein. Finalement, le PYD reste quand même une branche soumise au commandement central du PKK. Il y a également un pouvoir législatif, le Parlement, un pouvoir judiciaire, des ministères qu'on appelle des commissions, et un contrôle gouvernemental de l'économie, particulièrement fort en l'occurrence, notamment qui contrôle le pétrole et, et les secteurs stratégiques de l'économie, et c'est surtout l'exécutif qui est là. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas énormément de changements par rapport, disons, à un État classique, disons un État démocratique, entre guillemets, dans cette région. D'autre part, le PYD a toujours maintenu des liens très étroits avec le régime syrien au niveau administratif. Le régime, par exemple, contrôle toujours le cadastre. Il continue de payer une partie des fonctionnaires. Bon, ça, c'est le cas partout, mais effectivement, en tout cas, là-dessus, on ne peut pas dire qu'il y ait de singularité du PYD. Les impôts sont exclusivement récoltés par le PYD, alors même que, par exemple, les actes judiciaires sont transmis systématiquement à Damas. Donc, ce chercheur pense qu'il y a forcément un accord au niveau des impôts avec le PYD de la part du régime. Voilà. En termes de réalisation administrative et politique, certes, on n'est pas dans le cadre d'un État mafieux, clientéliste, patrimonial à la Assad, mais pour autant, on n'est pas dans la démocratie directe. Certes, il y a effectivement une petite autonomie locale sur des sujets très, très quotidiens, mais globalement, l'essentiel du pouvoir est détenu par l'exécutif et le commandement du PKK. Après, pour ce qui est des réalisations socio-économiques, évidemment, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de révolutionnaire, hein, malgré ce qu'on a lu ici et là, du fait que finalement, le PYD a un petit peu zappé toute la partie socio-économique de l'anarchisme de Murray Bookchin pour ne garder que des quelques références politiques au municipalisme libertaire. Donc, il y a une sacralisation de la propriété privée au sein du contrat social, et Öcalan a répété plusieurs fois que la lutte des classes devait être dépassée, qu'elle était obsolète, etc. etc. Donc, finalement, il n'y a pas énormément de surprises, nous dit ce chercheur, sur le fait qu'en dehors de quelques dizaines de coopératives agricoles de petite taille, donc des PME, et pas toujours réellement actives, donc qui concernent au final une part infinie de l'économie du nord-est syrien, c'est plutôt une continuation du capitalisme syrien préexistant dans la région auquel on peut assister, avec un contrôle étatique fort sur certains secteurs clés, et d'autre part des trafiquants capitalistes qui contrôlent une grande partie des échanges, puisque évidemment l'économie du Rojava est très dépendante vis-à-vis de l'extérieur, et qui contrôlent également une partie de l'économie extra-étatique. Le PYD n'a rien fait contre le développement de cette classe alternative, de cette classe de trafiquants capitalistes, pour des raisons pragmatiques, même si, évidemment, il n'est pas à l'origine de ce phénomène, hein, puisqu'il y a seulement une petite partie de ces trafiquants qui est liée au PYD. Donc finalement, loin d'être une terre d'autogestion, nous dit ce chercheur, hein, le PYD simplement à répliquer les logiques qui étaient déjà préexistantes et n'a pas du tout amorcé de transformation socio-économique, ce qui n'est pas étonnant vu qu'il n'y avait pas de programme de transformation socio-économique dans son idéologie. Donc au final, ce qu'on peut dire, c'est que à part une certaine capacité de gestion qui propose des ressources, des emplois, mais bon, ça c'est lié aussi au fait que le PYD a été jusque-là, par ses accords avec le régime, épargné par la guerre. Donc bon, est-ce que c'est une réalisation qu'on peut vraiment mettre à son actif, c'est à discuter au moins. Donc finalement, voilà, à part une plus grande démocratie en termes de gestion des affaires très locales et très basiques, et une promotion effective des femmes dans l'administration et dans la sphère publique, il n'y a pas grand-chose à mettre à l'actif du PYD, et même les changements positifs entre guillemets qu'il a mis en place l'ont été faits largement de manière autoritaire par en haut, en interdisant toute forme de mouvement progressiste, alternatif dans la société civile, enfin en tout cas, rien qui puisse menacer son hégémonie.
Enfin, tout ça, ça confirme un peu ce qu'on a dit un certain nombre de fois depuis plusieurs émissions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'informer en faisant autre chose qu'analyser les rapports de force. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'informer en croyant ce que des organisations politiques disent d'elles-mêmes. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de l'interview d'un combattant qui combat avec l'armée turque contre le PKK, qui avait lui aussi une propagande insistant sur le caractère multiethnique de sa brigade, qui disait qu'il luttait contre le PKK, qui était une organisation terroriste, qui disait qu'il se battait pour la liberté, que leur brigade était accueillie en tant que libératrice dans les villes qu'ils avaient conquises, qui parlait d'une démocratie locale et de conseils locaux dans les villes reprises par la Turquie, etc. Et je dis ça pour dire qu'il y a, la propagande du PKK, elle est relativement peu originale, en fait, et que c'est un type de propagande qu'on retrouve dans différentes brigades, et même, en fait, il y a aussi des choses qui sont mises en avant par le PKK qui sont relativement réelles, c'est-à-dire, par exemple, le caractère multiethnique des FDS, ou les négociations ou les accords entre différentes brigades, c'est-à-dire les Kurdes du YPG, des brigades syriaques, chrétiennes, des brigades arabes issues de l'ASL qui ont conclu des accords avec le YPG au sein des FDS, etc. Mais c'est pas quelque chose de particulièrement neuf ou particulièrement original ou qui singulariserait le Rojava, c'est-à-dire que depuis le début de l'insurrection syrienne, il y a eu des gens de différentes origines, de différentes communautés qui se sont organisés ensemble, notamment dans l'opposition civile en 2011 et en 2012. Et aussi, il ne faut pas se focaliser sur les symboles ou subordonner notre soutien à un concours de qui réussirait le plus à faire rêver les Occidentaux. C'est-à-dire que des militants français peuvent, s'ils le veulent, trouver agréable de voir des étoiles rouges ou des jolies femmes cheveux au vent. Cependant, ça doit peut-être pas être un critère politique pour chercher à comprendre ce qui se passe en Syrie, quoi. Et en fait, on en revient juste à la triste réalité de la situation en Syrie et à la nécessité de comprendre les rapports de force. C'est-à-dire qu'une organisation a beau se dire écologiste en Syrie, elle opérera toujours dans une ville bombardée et soumise à notamment des bombardements chimiques. C'est-à-dire que le PYD a beau... le PYD aurait beau avoir... toutes les meilleures volontés du monde sur la question de l'écologie, le principal problème resterait structurel et resterait par exemple celui de l'effet des bombardements au phosphore et au napalm qui ont été ceux de l'armée turque récemment. Pareil sur la question de l'autogestion, en fait. Si on regarde un peu sérieusement la manière dont est organisée la ville dans les villes tenues par le PYD, l'essentiel du budget, notamment celui fourni par les États-Unis, va aux militaires. Il y a un contrôle du parti sur la plupart des décisions prises par le TFDM, qui est du coup l'assemblée locale, et tout est soumis à des questions sécuritaires et militaires. En fait, on est en présence d'une économie de guerre, parce qu'on est dans une situation de guerre, en fait. Et du coup, il me semble qu'il faut juste chercher à regarder un peu froidement ce qui se passe, à la fois la géopolitique en temps de guerre, à la fois la réalité de la guerre civile, et aussi voir quel type de changements ont été opérés par le PYD. Et ce sont à chaque fois des changements par en haut, par la mise en place d'une administration, et avec une vision qui est en fait assez proche de celle des guérillas maoïstes. C'est-à-dire que... ce qu'on considère être libérer un territoire, c'est non pas s'appuyer sur la mobilisation de la population et essayer de changer les rapports sociaux, par le rapport de force et par la mobilisation populaire, mais c'est prendre un territoire par la force et y faire la police. Et il me semble que la seule chose qu'on peut faire en France, c'est à la fois s'informer, un peu précisément, un peu froidement. Il me semble que c'est ce qu'on a essayé de faire quand même dans cette série d'émissions. Et avoir, suite à cette analyse-là, évidemment, une solidarité avec toutes les mobilisations populaires, à la fois les mobilisations contre le régime, c'est-à-dire à la fois les manifestations dans les zones du PYD contre le régime et contre l'accord entre le PYD et le régime, les mobilisations dans ce qui reste comme zone tenue par l'insurrection, les manifestations extrêmement courageuses dans les zones tenues par le régime qui ont repris, et aussi les mobilisations dans le nord de la Syrie contre l'invasion turque. Il y a régulièrement des émeutes et un caillassage des chars turcs et des chars russes au Rojava par la population qui ne veut pas être occupée par l'armée turque et par l'armée russe. Et ça aussi, ça doit être relayé. Et évidemment, il faut relayer la volonté de la population du nord de la Syrie de se débarrasser de cette occupation turque et de lutter pour l'autodétermination kurde. Mais ça ne doit pas forcément passer par le fait de relayer tel quel ce que le PYD dit de lui-même. Ça doit passer par une information précise sur ce qui se passe sur place et par un relais des mobilisations populaires. Et évidemment, ce qu'on peut faire en plus ici, c'est par en participer soit à des actions ou à leur relais. On sait que il y a régulièrement, par exemple, des actions ou des tags, etc., vis-à-vis des consulats ou des ambassades, soit syriennes, soit turc, soit russe. Et il y a eu ces derniers mois des blocages, par exemple, de guichets de Turkish Airlines, du coup, pour protester contre la politique de l'État turc vis-à-vis des Kurdes. Et enfin, il y a aussi évidemment la question humanitaire, quoi. Il y a régulièrement des organisations, soit kurdes, soit favorables à l'insurrection syrienne qui mène des opérations humanitaires, soit à destination du Rojava, soit à destination des zones tenues par l'insurrection syrienne. Et c'est évidemment des choses qui doivent être soutenues et qui font partie du peu de pouvoir qu'on a ici. En plus, évidemment, du fait de relayer la voix des Syriens et des Syriens qui vivent encore en Syrie et des réfugiés syriens, évidemment. Il y a une mobilisation en faveur des réfugiés, en faveur des réfugiés syriens, qui doit évidemment être appuyé.
Oui, bah, je pense que c'est effectivement une bonne manière de conclure notre émission sur le dernier aspect dont tu as parlé. On peut renvoyer également à l'interview de Leïla Alchami que tu as conduite, qui parle voilà de ce qu'on peut faire ici en France et plus généralement en Occident par rapport à la question de la Syrie et du Rojava. Et donc cette émission, cette interview, on la trouve sur Sortir du capitalisme, sur le nom de Au cœur de la révolution syrienne. Le lien est évidemment sur la page de l'émission. Donc écoute, on te remercie vivement de nous avoir donné des nouvelles du front du Rojava et de Syrie. C'est un petit peu l'émission qui boucle cette série d'émissions consacrées à la Syrie et au Rojava. Mais évidemment, si il y a des développements importants dans les mois prochains, on fera sans doute une nouvelle mise au point. Donc, merci beaucoup, Vivian.
Non, merci à toi.
Sans doute. L'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Il n'y a aucun doute qu'il y a eu une véritable onde de choc révolutionnaire en 2011 dans l'ensemble de l'espace arabophone. « Ce fut véritablement un printemps, oui, mais c'est un printemps qui a été suivi, comme dans tout processus révolutionnaire de longue durée, et c'est de ça qu'il s'agit, qui a été suivi d'un hiver, hein, d'une période, d'une phase contre-révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons encore.